RFI. Le Monde à midi.
Tout de suite, on va revenir avec notre invité sur le discours prononcé hier par Donald Trump, un mois après son retour à la Maison Blanche.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Plus d'une heure et demie d'un discours à sa propre gloire que nous évoquons avec une historienne, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Ludivine Gilly.
Bonjour.
Le président américain a répété hier que ce n'était que le début. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout s'attendre à un changement de méthode, de forme de sa part ?
Non, très probablement que non. On peut s'attendre à une réduction du rythme auquel se produisent les actions et les mesures, car il en a déjà pris énormément au cours de cette quarantaine de premiers jours. En revanche, sur la forme, effectivement, on peut s'attendre à ce que ça continue de la même manière.
Alors, sur les dossiers qui ont déjà suscité beaucoup de critiques récemment, je pense par exemple à l'humiliation infligée à Volodymyr Zelensky vendredi dernier à la Maison Blanche, ou encore aux droits de douane imposés au Canada et au Mexique, on voit que l'administration nuance ou revient en partie sur ce qui a été décidé. Hier, par exemple, le ton était beaucoup moins virulent à l'égard du président ukrainien. Et puis, on évoque déjà des discussions avec les autorités canadiennes et mexicaines. Ça va ressembler à ça, les quatre années à venir, à un bras de fer permanent ?
Il est difficile de prédire à quoi ressemblera l'avenir, en particulier quand il s'agit de Donald Trump, parce que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est imprévisible. Ensuite, effectivement, il a une façon de faire qui tend à démarrer en force pour ensuite, alors pas forcément rétro-pédaler, mais revenir à la table des négociations s'il obtient des concessions de la part de ses adversaires. Ça, c'est vrai en particulier sur le plan international, c'est aussi vrai sur le plan intérieur, mais avec moins de marge de manœuvre probablement sur le plan intérieur qu'avec ses adversaires ou ses opposants au niveau international.
Justement, sur le plan intérieur, on va en parler. On a vu hier au Congrès des élus démocrates avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire par exemple « c'est faux » qui ont été brandies à certains moments du discours, ou encore « Musk vole et sauver Medicaid ». Il y a eu aussi une interruption du discours hier.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat.
Discours interrompu de Donald Trump et puis Al Green, élu démocrate, expulsé de la salle. Ça donne une idée de l'ambiance au Congrès, des débats qui peuvent survenir dans les années qui viennent, selon vous ?
Oui, effectivement, ça donne aussi les différents types de réactions qu'on a eues de la part des démocrates montrent aussi la difficulté qu'a le Parti démocrate à choisir une stratégie face à Donald Trump. Certains élus avaient choisi de boycotter. Un élu, notamment Chris Murphy, a tenu un contre-discours au moment où Donald Trump s'exprimait. D'autres élus ont assisté au discours en montrant leur désaccord avec ces fameuses pancartes. Al Green, lui, a choisi de s'exprimer. Il s'est exprimé à la sortie également, après avoir été expulsé. Il a expliqué ce qu'il avait dit, puisque quand on écoute le discours, on n'entend pas forcément ce que les opposants ont à dire. Donc ça a été une manière pour lui de faire passer son message. Mais on voit que les stratégies ont été très différentes au sein du Parti démocrate. Et c'est peut-être une difficulté pour ce parti pour être efficace face à toutes les mesures que met en place Donald Trump aujourd'hui.
Et qui sont extrêmement nombreuses. Hein. Donald Trump a vanté d'ailleurs toutes les décisions qu'il avait déjà prises, près de 80 décrets, 400 décisions. Et on a l'impression que, en effet, cette avalanche de décisions, à la somme, elle paralyse un peu les opposants à Donald Trump.
C'est la stratégie qui était prévue par le camp Trump avant qu'il arrive au pouvoir, contrairement à ce que l'on avait vu lors de son premier mandat où il était arrivé totalement impréparé. Cette fois-ci, il avait dans les cartons de très nombreux décrets. Et effectivement, les dizaines de décrets, on vient de dépasser les 80 décrets présidentiels, plus les proclamations, plus les mémorandas, donc une centaine de mesures présidentielles. Et face à cette avalanche de mesures, il est difficile pour l'opposition, d'une part, de prendre la mesure de toutes les actions qui ont été prises et d'autre part, de préparer un plan de bataille. Sur le plan judiciaire, ils étaient préparés et des recours, de très nombreux recours ont été déposés, mais ça n'est qu'une des manières de s'opposer. Et pour le moment, il y a beaucoup de divergences stratégiques sur la meilleure stratégie à aborder face à cette profusion d'actions de la part de l'administration Trump.
Il y a une profusion d'actions, mais les thèmes, on les connaissait puisque Donald Trump en avait parlé pendant sa campagne. En fait, il n'y a pas énormément de surprises. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les responsables politiques démocrates de s'organiser?
Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est simplement la profusion de mesures, c'est-à-dire que le premier, dans la mesure où les démocrates sont en minorité au Congrès, leur seul recours, c'est devant les tribunaux. Et donc, il faut le temps de préparer les mesures qui vont spécifiquement faire obstacle au décret selon la formulation qui a été adoptée, parce qu'on connaissait les thèmes, mais on ne connaissait pas précisément ce qui allait être visé. Et l'autre obstacle pour les démocrates, c'est simplement que ils sont encore en phase de bilan de leur défaite de l'élection présidentielle et ils ont de profondes divergences sur l'interprétation de la défaite et le sens à lui donner. Et donc, ils ne sont pas forcément d'accord ni sur le fond ni sur la forme, c'est-à-dire qu'est-ce qui a causé la défaite? Est-ce que c'est un programme trop à gauche ou trop à droite? Et ensuite, face à cette défaite, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce que c'est de s'opposer à toutes les mesures tous azimuts de Donald Trump ou est-ce que c'est de choisir certaines mesures les plus symboliques et de mettre le paquet sur ces mesures-là? Et pour le moment, les démocrates n'ont pas fait le point suffisamment entre eux sur le fond et sur la forme.
Alors, il y a quand même, vous nous l'avez dit, des contestations devant la justice. L'administration américaine a écarté, on l'a vu, en un mois, de très nombreux salariés. Elle a commencé à démanteler certaines agences publiques. Donc, sur certains de ces points, il y a des procédures en cours. Mais je voulais vous demander, est-ce que les fonctionnaires, les administrations sont obligés d'être loyales à Donald Trump?
Oui et non. C'est toute la difficulté de ce qui se passe actuellement. L'administration doit la loyauté à la Constitution. Et donc, ce qui se joue maintenant, c'est si cette administration reçoit des ordres illégaux de la part de la présidence de l'administration Trump, les fonctionnaires de carrière en particulier, puisque les fonctionnaires politiques, eux, vont promouvoir la ligne Donald Trump, mais les fonctionnaires de carrière sont face à un dilemme entre obéir à leur hiérarchie ou obéir à ce qu'ils pensent être le droit et la Constitution, avec pour seule défense de leur côté la justice et les tribunaux, mais la justice prend du temps et demande aussi de l'argent et tout le monde n'a pas le loisir d'attendre les décisions de justice, d'attendre que la justice donne raison. Donc c'est très délicat pour les fonctionnaires en poste aujourd'hui.
Donald Trump, on l'a vu, a une vision du pouvoir qui ne correspond pas du tout au fonctionnement des États-Unis, basée sur un principe de contrôle réciproque entre l'exécutif, le Congrès et la justice. Est-ce qu'il peut, selon vous, modifier durablement le système américain?
C'est une possibilité. Il a lancé aujourd'hui, il a lancé depuis le 20 janvier de très nombreuses mesures. Une partie des décrets qu'il a signés testent les limites du pouvoir exécutif et justement testent l'équilibre entre les trois pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est silencieux. Les démocrates sont en minorité, donc l'opposition pourrait venir de républicains qui trouveraient qu'il va trop loin. Pour le moment, les républicains sont totalement silencieux. Donc pas d'opposition du côté législatif. Reste la question du judiciaire. Aujourd'hui, un certain nombre de juges fédéraux de district, donc premier niveau judiciaire fédéral, ont suspendu, ne se sont pas encore prononcés sur le fond des mesures, mais ont suspendu une partie des mesures. Mais leurs décisions devront être prises dans les mois, dans les semaines et les mois qui viennent sur le fond. Et là, on verra ce que dit la justice au premier niveau, puis en appel. Et jusqu'à la Cour suprême, et il faut quand même rappeler que la Cour suprême, c'est celle qui, en juillet de l'année dernière, a rendu un arrêt qui donnait à Donald Trump une immunité absolue pour les actes qu'il avait pris dans le cadre de ses fonctions présidentielles.
Et c'est cette cour qui va jouer un rôle absolument décisif dans les mois et les années à venir. Merci Ludivine Gili d'avoir été en ligne avec
nous. Merci à vous.
Directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Ce discours, on y reviendra à partir de 13h, temps universel, avec notre correspondant à Washington. Et dans 30 secondes, l'actualité africaine. À tout de suite.